Nous allons donc passer la parole donc à M. Sévagin, donc Alexandre Sévagin, qui est le directeur d'Imeris Céramic Centre, et qui va donc vous faire un exposé donc, sur justement la science céramique.
Donc M. Sévagin est ingénieur des mines, il a fait l'école des mines de Paris, il a fait une thèse ensuite à l'école centrale, et il a occupé différents postes de responsabilité dans le milieu minier, et il dirige actuellement le Imeris Céramic Centre à Limoges, donc c'est le pôle céramique du groupe Imeris, donc je crois qu'il va vous parler. Et il était en même temps président du Centre de transfert technologique sur les céramiques, donc qui rassemble l'ensemble des compétences nationales sur les céramiques.
Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Et d'abord, merci beaucoup au professeur Georges Callas de m'avoir invité à faire cette présentation aujourd'hui. Et effectivement, donc, on va un peu illustrer, donc, dans un domaine plus précis, qui est le domaine de la céramique, toutes ces relations entre les minéraux et les usages, et donc parler plus précisément de la relation entre la qualité de la ressource minérale et l'exigence des usages en prenant comme exemple les minéraux pour la céramique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter quelques données sur la société qui m'embauche, qui me fait travailler, non pas pour faire de la publicité, ce n'est pas le lieu ici, mais pour vous faire comprendre un certain nombre de choses relativement simples, que dans le domaine des minéraux industriels, qui est finalement relativement peu connu, il y a des très très grands groupes. Le groupe Imeris, c'est un groupe qui fait presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe français, hein, donc il a toute son histoire en France, qui est évidemment aujourd'hui présent partout dans le monde, qui fait pas mal de recherches. Vous voyez qu'il y a 8 laboratoires de recherche dispersés dans différents endroits, plus un grand nombre de laboratoires d'application. Et vous comprendrez pourquoi, à chaque fois, les problèmes d'application se posent. Donc un groupe présent partout dans le monde qui touche pratiquement toutes les applications dont on vient de parler, le professeur Callas, tout à l'heure, que ce soit le papier, que ce soit les charges minérales, la céramique et bien d'autres choses. C'est un groupe qui est également le leader mondial du kaolin et du talc. Voilà. Et dans le domaine de la céramique, parce que personnellement, c'est ma spécialité aujourd'hui, les minéraux pour céramique, on a aussi une position assez forte de producteurs de matières premières. Donc, vous avez ici une liste. Donc, on retrouve des noms que vous avez déjà entendus, les argiles, les kaolins, les feldspaths, les sables et bien d'autres produits. Et ce sur quoi je voulais aussi insister un petit peu, c'est que dans notre métier, on va aussi fabriquer des mélanges, on va proposer des masses céramiques prêtes à l'emploi, par exemple, comme dans le cas du boulanger qui, quelquefois, n'achète pas sa pâte à pain lui-même, quelqu'un la fabrique pour lui. C'est notre métier dans la céramique. Voilà, alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet, de la qualité de la ressource et de l'exigence des usages. Quand on prend les métaux, la valeur d'un métal, par exemple, le métal le plus connu, c'est l'or, c'est le cours de l'or d'hier, c'est à 37 200 euros le lingot, hein, 1280 dollars l'once. Personne ne discute la valeur. Personne ne discute la valeur. La valeur est le résultat d'équilibre, de grands équilibres. Dans le cas de l'or, c'est des grands équilibres qui sont liés à des questions financières, puisqu'on utilise l'or pour thésauriser. Dans le cas de certains autres métaux, c'est des grands équilibres d'offres et de demandes, étant donné les mines ouvertes par rapport à la demande de métal. Dans le domaine des minéraux industriels, et là, vous avez l'exemple des argiles. On a déjà beaucoup parlé d'argile. Donc, ce sont 3 types d'argiles. Ce sont des minéraux, on a vu, relativement abondants. Et vous voyez que la valeur peut varier de plusieurs puissances de 10. On va de 8 euros pour une argile qui est utilisée dans la tuile jusqu'à plus de 200 euros. Et dans certaines applications, ça peut même monter encore plus haut pour des argiles spécifiques qui vont aller dans des usages bien déterminés. Et finalement, c'est ça un peu l'objectif de l'exposé que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc on va commencer par récolter quelques données générales sur la céramique et sur les matières premières qui sont utilisées, pour ensuite pouvoir entrer plus dans le détail sur les questions de comment on ajuste justement les matières premières à l'exigence, et on verra après comment, de tout ce qu'on aura récolté comme information, qu'est-ce qui est généralisable à l'ensemble des minéraux industriels et l'ensemble des applications. Donc, commençons par quelques données sur la céramique. Vous avez ici, alors sans vouloir être exhaustif, parce que c'est pareil, si on veut être exhaustif, on ne s'arrêtera jamais, d'un certain nombre d'applications de la céramique classées, je dirais, dans une matrice assez simple, deux colonnes, deux lignes. Les deux colonnes correspondent à deux grandes familles d'usages. D'une part, les usages domestiques dans la colonne de gauche et les usages industriels dans la colonne de droite. Et puis, dans les lignes, en haut, sur fond jaune, vous avez des applications qui sont fabriquées à partir de matières premières minérales. Et en bas, sur fond bleu, vous avez les applications de céramique qui sont fabriquées à partir de matières premières qui vont être des poudres. Alors, les quelques poudres, bien entendu, à un moment donné, viennent d'un minéral. Ça peut être, par exemple, de l'alumine ou de la zircone. À un moment donné, l'alumine vient de la bauxite, la zircone vient du zircon. On les trouve dans la nature, mais il y a eu un processus chimique assez important de transformation. Et pour la facilité de l'exposé aujourd'hui, je m'en vais plutôt focaliser sur le coin en haut à gauche, tout simplement parce que on parle de minéraux industriels, et puis on est dans des applications que vous connaissez bien. On va parler des tuiles de votre maison ou de votre maison de campagne. On va parler des carreaux qui sont nécessairement dans votre salle de bain, dans la cuisine, dans le grand magasin dans lequel vous allez faire vos courses. De la céramique sanitaire qui y a nécessairement dans votre salle de bain et de la porcelaine que j'espère est sur votre table les jours de fête. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de la céramique? Et ça, c'est pratiquement général. On cuit à la fin. Quand on fabrique un métal, on commence par fondre, on coule, on met en forme en dernière. La céramique, on fait tout avant. On cuit à la fin. En tout cas, on met en forme d'abord. Quelquefois, il y a deux cuissons. Donc, on met en forme, on décore après, on fait la deuxième cuisson. En tout cas, La bonne ou la mauvaise surprise, c'est à la sortie du four, où on a notre produit. Et vous avez essentiellement deux métiers. Il y a le métier des gens qui préparent la matière première, c'est l'industrie que je représente, et les gens qui fabriquent la céramique, qui sont nos clients. Alors, pour entrer dans le sujet, je vais essayer de vous donner quelques idées des technologies de mise en forme qui existent dans la céramique, à commencer par celle à laquelle a fait allusion le professeur Callas tout à l'heure, qui est le calibrage, qui est le tour du potier. Ça fait longtemps que les potiers fonctionnent comme ça. C'est un plaisir de les voir faire leur travail aujourd'hui. Hein, et on comprend, quand on voit le potier faire monter sa forme, que la matière première doit avoir quand même de bonnes propriétés de plasticité pour que ça fonctionne bien. Sinon, ça ne fonctionne pas, il y aura des cracks, il y aura des choses. C'est un procédé qui existe aussi industriellement, qui a été industrialisé. Et aujourd'hui, en particulier dans toute la zone asiatique, on fait encore de la céramique de table, des assiettes par ce procédé de calibrage. Quand on pousse ça à travers une filière pour que... Donc on arrive dans l'extrusion. Vous avez en bas à gauche l'extrusion, la fabrication de tuiles. Ici, c'est de la tuile canale ou de la tuile romaine qui va être ensuite découpée et où la mise en forme va être finie par pressage. Et puis, vous avez une image absolument impressionnante de fabrication de gros isolateurs à haute tension, ce qu'on peut trouver dans les sous-stations. Alors c'est un petit peu en dehors du coin ou à gauche que j'avais restreint, mais la photo est tellement belle que je n'y ai pas résisté. Vous comprenez aussi que la matière première doit avoir de sacrées propriétés pour pouvoir sortir un produit comme ça sans défaut. Bien entendu, une grande mode d'utilisation dans la céramique aujourd'hui, c'est le pressage du carreau. Tout le carreau est fait par pressage. Dans le temps passé, on faisait extrusion plus pressage comme la tuile. Aujourd'hui, c'est pressage de poudre dans des énormes presses. On fabrique en Italie, en Espagne, des carreaux qui peuvent avoir jusqu'à 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Donc vous imaginez la puissance des presses qui fabriquent ces carreaux-là. Et l'autre photo concerne du pressage pour une autre technique pour fabriquer des assiettes ou de la céramique de table, donc de plus petites dimensions. Un procédé extrêmement intéressant, totalement différent pour fabriquer la céramique, c'est le coulage. Alors le coulage, on procède de manière complètement différente. On fabrique ce qu'on appelle dans le jargon des céramiques, une barbotine, qui est une suspension très fine, donc des minéraux très très finement divisés, suspension dans de l'eau, un peu comme une pâte à crêpes. Et cette suspension dans de l'eau, on a en gros 50% de matière solide, 50% en volume, hein, 50% d'eau, en poids bien entendu, il y a beaucoup plus de matière solide que d'eau. Et donc c'est très fluide et on va couler ça dans un moule en plâtre. Le plâtre va exercer une succion de par sa porosité et à la surface du plâtre va se former une coque qui va grandir à travers le temps jusqu'à faire plusieurs millimètres, 5, 6, 7, 8 millimètres, c'est les ordres de grandeur, au bout d'une heure de temps, grosso modo. On revide l'excédent de barbotine, on attend un petit peu que ça se raffermisse, j'utilise un peu les mots du jargon aussi du métier, et on démoule. Et on peut ainsi fabriquer... toute la céramique sanitaire se fabrique comme ça. Hein. Vos cuvettes de WC, vos lavabos sont fabriqués par des procédés de coulage. Vous voyez ici, donc de manière industrielle, des bancs de coulage de lavabo, tout à fait à gauche. Et quand on veut accélérer tout ça, on y met un petit peu de pression pour que ça aille plus vite. C'est ce qu'on appelle le coulage sous pression. Enfin, il y a aussi d'autres procédés de mise en forme de la barbotine. Et là, j'ai pas résisté non plus à revenir à la mise en forme des isolateurs à haute pression, parce que c'est impressionnant, c'est l'usinage. Hein, la céramique, une fois qu'elle a été mise en forme, on finit le travail par usinage. Ça peut être également le cas dans la céramique de table, où il y a certaines parties qui peuvent être terminées au couteau, à l'éponge, pour véritablement avoir la forme souhaitée. Une fois qu'on a la forme... Voilà, une fois qu'on a la forme souhaitée, on cuit. Alors, on décore et on cuit. Alors, je vais, hélas, pas prendre trop de temps pour décrire toutes les technologies de décoration. La cuisson, vous avez donc les quatre types de céramique qu'on s'est un petit peu donné comme référence. Ils sont classés pour les cuissons les plus froides vers les cuissons les plus chaudes. Donc on va dire les cuissons les moins agressives vers les cuissons les plus agressives. En général, la céramique, on va dire aujourd'hui, industriellement, est cuite aux alentours de 8 heures de temps, c'est grosso modo, sauf une très très grosse exception qui est le carreau. Le carreau céramique est cuit en 30 minutes froid à froid. 30 minutes. Quand vous allez dans une usine de carreaux, vous mettez un échantillon à l'entrée de l'usine, à l'entrée du four. Les fours font 150 mètres de long, donc ça prend bien 5-10 minutes. Vous prenez un café à la sortie du four et votre échantillon sort. Il est froid, il a été cuit. Voilà, les températures donc, vont aux environs de 1000 degrés pour la terre cuite jusqu'à 1400 degrés pour la porcelaine. Une fois que c'est cuit, qu'est-ce qu'on observe dans la céramique? Donc, comme l'a expliqué le professeur Callas, on déstructure pas mal ce qui existait initialement. hein, ce qui fait beaucoup de différence par rapport aux applications qui ont été vues initialement. On déstructure parce qu'on va calciner, parce qu'on va former une phase vitreuse. Il y a une partie des produits qui vont fondre, quelquefois même on va mettre des minéraux pour constituer cette phase vitreuse que sont les feldspathes. On va avoir au sein de la phase vitreuse des phénomènes de précipitation de cristaux, de formation de cristaux, qui dans le jargon des verriers s'appelle la dévitrification, lesquels cristaux peuvent justement vont donner une résistance mécanique assez importante à cette phase vitreuse, et il va rester une porosité. Et bien entendu, suivant le niveau de cuisson qu'on va donner, on va avoir plus ou moins ces effets-là qui vont jouer. Quand on est dans la terre cuite, on a encore une très très forte porosité et on a très peu de phase vitreuse. On a, on va dire, des reliquats calcinés qui sont frités entre eux. Quand on est dans le domaine de la porcelaine, on a toujours un peu de porosité, qui est de la porosité fermée, mais vraiment plus beaucoup. Et on a une phase vitreuse qui est extrêmement importante, dans laquelle s'est développée, vous avez une image de microstructure, dans laquelle se sont développées des petites aiguilles, qui sont des aiguilles de mullite, qui est un silicate d'alumine, qui se forme après coup, et des reliquats, des minéraux initiaux, comme par exemple le quartz. Ce cas-là, ça dit tout à l'heure que le quartz, lui, la seule chose qui peut lui arriver, c'est d'être dissous dans la phase vitreuse, mais qui est un céramique qui n'a pas le temps. Quelle matière première on utilise? Grosso modo, on utilise quatre grandes matières premières, quatre grandes familles de matières premières qu'on regroupe justement en deux familles, excusez-moi. La première famille, on va appeler ça les minéraux tendres, ce sont les argiles et les kaolins. Alors je reviendrai un petit peu plus loin sur quelle est la différence qu'un industriel fait entre une argile et un kaolin, parce que minéralogiquement, on est pratiquement dans les mêmes systèmes que ceux qui vous ont été exposés précédemment. On utilise les argiles et les kaolins, en tout cas pour avoir de la plasticité à la mise en forme, pour avoir la résistance mécanique, hein, parce que justement, on met en forme avant de faire le matériau, avant de le cuire. Pendant toute cette partie en cru, il faut que vous avez compris avec les procédés, il faut que ce soit plastique, mais il faut aussi qu'il y ait une certaine cohésion. Votre cuvette de WC, il faut... Quand elle est formée, qu'elle est démoulée, il faut pouvoir la mettre dans le four avant qu'elle ne s'écroule. Les minéraux durs, ils vont, eux, servir à structurer, donc à créer une structure tant qu'on est en cru, et à, bien entendu, en ce qui concerne le feldspath, à former la face vitreuse. Et vous avez ici la composition un peu typique des grandes classes de céramique dont on a parlé tout à l'heure. La terre cuite, c'est beaucoup d'argile, et on met du sable. Dans leur jargon, ils utilisent le mot « dégraissant ». Le sable dégraisse l'argile, il faut un minimum régler un peu, d'une certaine manière, la plasticité. Quand on est dans le domaine du carreau, on cuit à toute vitesse, comme je viens de le dire, et on doit mettre beaucoup de feldspath, beaucoup de fondant pour avoir la face vitreuse. Quand on est dans le domaine de la céramique sanitaire, c'est facile à se rappeler, c'est le 4 quarts. Grosso modo. Et dans la porcelaine, le kaolin remplace toute l'argile. On est dans une même typologie de famille de formulation, mais le kaolin remplace l'argile, du coup, il y a 50% de kaolin. Alors, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence qu'un industriel va faire entre une argile et un kaolin. Et de ça, reprendre sur des notions que le professeur Callas vient de vous expliquer, dont je vais passer très vite. Les minéraux les plus importants, donc dans les argiles et les kaolins, sont ce qu'on appelle les minéraux argileux, qui sont les phyllosilicates, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont constitués de feuillets avec des tétraèdes, des octaèdes. Et dans nos produits à nous, on a essentiellement trois grandes familles de minéraux argileux dont vous avez entendu parler tout de suite. La kaolinite, qui est la plus simple, uniquement la structure tétraède, octaède. L'ilite. Alors, l'ilite, on n'a peut-être pas prononcé le mot, mais ce qui est extrêmement intéressant, le professeur Callas a parlé de la structure du mica, mais il s'avère que dans la nature, ces micas peuvent être extrêmement fins, et à un moment donné, on reste dans la même structure, mais on change de nom. Et donc on a la présence de potassium dont on a parlé tout à l'heure. Le potassium est important dans la céramique parce qu'il va apporter aussi une propriété de fondant. Et, en fait, et enfin, il y a les argiles smectites qui constituent une assez grande famille. On a dit que c'était très compliqué. Et je suis d'accord avec vous. Vous voyez là les tentatives de formules chimiques. Ce qui est important, c'est que ce sont des argiles gonflantes, comme on l'a vu, qui ont une très forte capacité d'échange cationique, qui vont apporter de la plasticité dans les argiles, mais très très difficile au point de vue de la rhéologie. Quand on parle de coulage, vous avez vu tout à l'heure, il y a un réglage rhéologique qui est important et les argiles smectites, dont la montmorillonite, qui est le plus représentant le plus abondant, pose des problèmes. Vous avez vu tout à l'heure une photo de kaolinite, je vous en remontre une autre. Vous voyez à peu près le même type d'information. Vous avez, on retrouve la structure hexagonale, jusqu'à toutes les échelles, la structure en feuillet. Et pour un industriel, ça va être extrêmement important, cette question-là, parce qu'une kaolinite comme ça, dans notre jargon, alors on utilise des fois des anglicismes, on dit qu'elle est bloquée, en bloc. Elle va avoir certaines propriétés. Si par un procédé de délamination, vous allez, comme si vous effeuilliez un livre, en sortir les feuillets, vous allez avoir des feuillets de kaolin qui vont avoir des propriétés d'usage totalement différentes. Vous avez ici une photo d'élite, donc vous pouvez dire que c'est des micas infiniment petits. Vous voyez la taille, vous voyez, c'est submicronique, et ces argiles-là sont extrêmement plastiques, extrêmement plastiques. Alors, maintenant je viens à mon point, qui est la différence entre l'argile et le kaolin. Vous avez ici, c'est pour lire les compositions dans l'espace, vous avez la face basale qui correspond donc à nos... Oh, je dois prendre ça à l'envers. Bon, c'est pas grave. Kaolinite, ilite, smectite, le quartz au-dessus, et donc chacun des points dans le tétraèdre correspond à une composition. Les kaolins correspondent à des gisements plus ou moins grossiers, qui correspondent à du granit en cours de décomposition. Et ce granit en cours de décomposition, quand on se promène dans la nature, quelquefois on en voit, on le lave tout simplement pour récupérer les parties les plus fines, donc par séparation de taille, et on tombe sur donc d'un produit qui est en général très très riche en kaolinite. Mais on peut avoir pas mal d'élite malgré tout, un peu de smectite. Et c'est ce qu'on appelle le kaolin industriel. Le kaolin industriel, on va dire que c'était des roches primaires qui ont été lavées. À l'inverse, on va avoir dans un autre cas de figure des gisements qui vont être des gisements secondaires qui ont été transportés, donc très fins, qui peuvent avoir des teneurs en quartz non négligeables et qui se sont déposés par couches. Que là, on ne va pas nécessairement laver, il n'y a pas besoin de laver. On va tout simplement exploiter ces gisements-là en sélectionnant avec soin chacune des couches en fonction des propriétés qu'on recherche. C'est ainsi, donc c'est ce qu'on appelle l'argile dans notre jargon à nous. Et l'argile, bien entendu, est très plastique, alors que les kaolins qu'on fabrique comme ça le sont moins. Ils le sont, mais ils le sont moins. Vous avez ici une photo d'une carrière gigantesque qui se situe en Grande-Bretagne, en Cornouailles, qui sont une des plus grosses réserves de kaolin au monde. Ceci dit, il y a du kaolin en France encore exploité aujourd'hui pour la céramique et pour bien d'autres applications, en particulier en Bretagne et dans le centre de la France. Et vous avez ici une carrière d'argile. Cette photo fait bien ressortir les différentes couches qui ont été successivement déposés. Les écarts de couleurs correspondent dans ce cas-là à des teneurs en matière organique. Il y a toujours un peu de matière organique dans les argiles. Il y a toujours un peu de fer dont on a parlé tout à l'heure dans les argiles. Et quand on exploite ces argiles-là, on fait bien attention à pas tout mélanger. Et le dernier point que je vais dire sur les généralités, ce sont des tonnages significatifs. on ne parle pas de petit tonnage, on parle de dizaines de millions de tonnes qui, à la fin, font une centaine de millions de tonnes. Je parle là du marché européen. Hein, et vous avez, donc, par rapport aux argiles, on fait la part entre les argiles rouges et les argiles blanches, vous le comprenez bien, celles qui vont donner des carreaux à plate blanche et de la tuile, ce n'est pas tout à fait la même couleur. Les kaolins, les feldspaths, les quartz, tout ça, ça fait en gros en Europe une centaine de millions de tonnes. Et quand vous voyez d'où ça vient, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui sont exploités localement. Quand je dis localement, c'est, on va dire, dans un rayon de 100-150 km par rapport au point de consommation. Donc c'est consommé en Europe. Et puis, il y a pour certains des produits, quand même certains gisements, certaines zones un peu spécifiques, dont on va reparler ultérieurement, qui correspondent à des produits de plus grande qualité qui peuvent voyager beaucoup plus loin. Voilà, donc parlons maintenant du sujet de l'ajustement des matières premières à l'exigence. Quelles sont les exigences dans les usages? Alors, évidemment, il y a les exigences du produit lui-même. On va fabriquer une tuile, on va fabriquer une assiette. Il y a les exigences de conformité à l'attente. Une assiette, il faut qu'on ait sa forme pour qu'on puisse manger dedans, ainsi de suite. Dans tous ces métiers-là, il y a les exigences liées à l'esthétique qui sont extrêmement importantes, donc les notions de couleur, enfin, tout ce dont a parlé le professeur Callas tout à l'heure est extrêmement intéressant. La transparence, quelquefois on veut l'opacité, des fois on voit la transparence. Porcelaine, on est bien quand il y a un peu de transparence. La durabilité du produit, sa fragilité, ce n'est pas la grande qualité des céramiques de manière générale, donc on essaye toujours à faire qu'elles soient le moins fragile possible. La dureté de l'émail, la dureté dans le temps. Et en dehors des exigences du produit lui-même, il y a les exigences du procédé. Et vous avez vu tout à l'heure sur les photos que les procédés peuvent être extrêmement exigeants par rapport aux matières premières. Hein, on va avoir besoin de plasticité, de rhéologie, de choses comme ça, pour permettre tout simplement la possibilité de la mise en œuvre, la faisabilité du procédé. On va avoir besoin de vitesse de mise en forme, de vitesse de coulage, j'ai parlé du coulage tout à l'heure, pour avoir un minimum de productivité, et ainsi de suite. Et donc, je vous donne là, sur ce transparent, alors je ne vais pas le commenter dans le détail, mais de manière à peu près exhaustive, pour chacun des composants, donc on est dans le cas d'une argile, on a vu tout à l'heure la différence entre une argile et une kaolin, donc une argile, avec ses trois phases, ses trois constituants argileux, enfin de minéraux argileux principaux, plus du quartz ou de la silice qui peuvent exister, comme on a vu, plus des oxydes chromophores qui existent toujours, on est aux alentours de quelques pourcents, des matières organiques qui peuvent être plus, entre guillemets, de type charbon ou de type hydrocarbure, je la fais un peu schématique, et des carbonates qui peuvent être également des argiles. Et en face de chacun, j'ai essayé de mettre les effets par rapport aux exigences. Et le message que je veux passer à travers ce transparent, c'est de vous montrer la complexité. Quand vous vous intéressez à vouloir régler la rhéologie, vous ne réglerez pas la rhéologie en jouant sur une seule matière première. Pratiquement, la moitié des matières premières vont jouer sur la rhéologie. Même chose pour la plasticité. Donc c'est une matière, c'est une matrice d'une certaine manière assez complexe. Et ça, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que le système qualité s'intéresse d'abord aux caractéristiques d'usage avant de s'intéresser aux caractéristiques intrinsèques. Alors évidemment, on va quand même mettre une analyse chimique dans nos fiches techniques parce que les gens qui sont habitués arrivent à décoder à travers l'analyse chimique qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les produits. La granulométrie, ça d'accord, c'est important. Mais après, on va mesurer les caractéristiques d'usage qui sont les caractéristiques qui font la valeur du produit par rapport, mettons, aux questions de couleur après cuisson. Hein. Ce n'est pas la couleur en cru. Couleur en cru, ce n'est pas très grave. C'est la couleur après cuisson. Les questions de résistance mécanique en cru, c'est extrêmement important. Je vous ai expliqué pourquoi. Et ainsi de suite. Et à partir du moment où un produit aura été défini entre un client et un fournisseur, après, ce qui est fondamental, vraiment très important, c'est de pouvoir garantir une certaine régularité dans le temps. Et maintenir une régularité dans le temps avec des minéraux naturels, ce n'est pas toujours si évident. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a quelqu'un qui a du travail, c'est le formulateur. Le formulateur a du travail dans le domaine de la céramique. Donc faire une formulation, c'est de trouver finalement un compromis. C'est une question de compromis pour répondre aux exigences telles qu'on vient de les voir tout à l'heure. Et ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que la position du curseur varie en fonction des technologies et des besoins finaux. Dit autrement, une matière première pourra être bonne dans un usage et pas du tout bonne dans l'autre. Donc avoir de la valeur pour un usage et pas du tout de valeur pour un autre. Vous avez ici l'exemple du choix d'une argile plastique avec une échelle. Donc, quand l'argile n'est pas plastique du tout, on dit qu'elle est maigre. Quand elle est un peu plus plastique, on est grasse et il y a des argiles très plastiques, très grasses. Vous avez des chiffres qui sont les résistances mécaniques en kilos par centimètre carré qui vous donnent un petit peu des idées. Une argile maigre, elle va être riche en assez grossière malgré tout, riche en silice et en kaolinite. Une argile grasse, il n'y aura pas trop de quartz, elle sera très fine, elle sera riche en kaolinite et en illite, ainsi de suite. Et quand vous êtes quelqu'un qui fait du coulage, très vite, si vous utilisez des argiles trop grasses, vous allez avoir des problèmes de rhéologie. Vous n'arriverez plus à fabriquer votre fameuse pâte à crêpes, vous n'arriverez plus à la revider correctement. Vous allez plutôt utiliser des argiles maigres. Quand vous allez être quelqu'un qui va faire du pressage ou de l'extrusion, vous avez vu les photos, vous avez besoin de plasticité. Donc vous allez chercher des argiles plus plastiques, plus grasses. Dit comme ça, c'est un petit peu évident, mais quand même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des argiles extrêmement plastiques qui n'ont absolument aucun usage utilisé seul. Et on ne peut rien en faire. Par contre, avec quelques pourcents ou une toute petite dizaine de pourcents dans une formulation, elle peut tout d'un coup tout changer. C'est en général les argiles asmectites, on les utilise très très rarement dans des formulations, seules dans les formulations. Le casse-tête du formulateur dans le coulage sanitaire. Quand j'étais petit, j'étais à l'école primaire, j'avais encore eu droit aux leçons de choses et on m'avait expliqué que l'argile c'est imperméable. Quand vous pensez que le procédé de coulage sanitaire consiste à faire passer de l'eau à travers quelque chose qui est imperméable, on comprend que ça prend du temps. Et on comprend que ça pose des problèmes de mise en forme. Et le casse-tête du formulateur en coulage sanitaire, c'est de trouver un compromis entre la quantité d'eau à filtrer, donc plus je pourrais faire ma barboutine riche en solide, moins j'aurai besoin de filtrer d'eau. Un compromis entre la vitesse de filtration, parce qu'il faut que ça passe à travers, comme on vient de le dire. Un compromis, et puis il faut qu'à la fin, on fasse quelque chose que lorsqu'on démoule, ça tienne encore debout. La cohésion du tesson une fois formé. Et ça, c'est un vrai casse-tête. Je vous ai mis en dessous quelques exemples de fiches techniques des produits qu'on vend. Simplement pour vous montrer que heureusement il y a des produits qui ont des propriétés assez diverses et en général le formulateur ce qu'il va faire il va essayer de trouver son compromis en mettant deux argiles ou deux kaolins à des propriétés un peu diverses et il va les ajuster pour tomber sur le point le plus intéressant. Mais il arrive que la nature réserve des bonnes surprises, ça oui. Et certaines matières premières peuvent présenter un compromis miraculeux pour une application bien spécifique. C'est le cas, par exemple, pour les argiles du carreau, les argiles du Donbass en Ukraine, hélas, typiquement dans la zone où aujourd'hui les gens sont en train de se battre. Mais il y a d'énormes gisements d'argile qui, je vais vous montrer l'exemple là tout de suite, enfin, vous l'illustrer. Les argiles du Devon par rapport au coulage sanitaire, je vous ai dit tout à l'heure que la personne qui doit formuler en sanitaire est souvent en face d'un sacré casse-tête. Et quand il a à sa disposition des argiles du Devon, C'est pareil, en mettant une petite dizaine de pourcents, ça lui change totalement l'équilibre entre les questions relatives aux vitesses de filtration et à la résistance mécanique, et du coup, il peut aller beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite à un compromis. Les kaolins de Bretagne et en France, pour l'émaillage, alors je n'ai pas beaucoup parlé de l'émaillage aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on a en France un gisement extrêmement important, et ces produits-là sont susceptibles de faire le tour du monde. Ils peuvent se vendre partout. Les argiles de Devon, ils s'en vont en Chine, ils s'en vont en Colombie, ils s'en vont partout dans le monde. Les kaolins de Bretagne, ils s'en vont en Inde, ils s'en vont partout dans le monde parce qu'ils tombent pile sur le compromis qui correspond à une application donnée. Alors, bien entendu, quand ils arrivent sur place, c'est des matières premières qui sont dans des prix, qui sont dans des ordres de grandeur totalement différents d'une matière première locale. Quand vous êtes en Inde, un kaolin local va coûter une trentaine d'euros, ou le kaolin de Bretagne va en coûter 300 avec le transport. J'ai essayé de vous illustrer le miracle des argiles du Donbass, donc les argiles d'Ukraine. Le petit point rouge correspond au meilleur compromis. C'est un compromis, donc on doit faire du carreau, on a la besoin, on va dire, de résistance mécanique et de plasticité. Hein, imaginez un carreau 2 mètres de long sur 1 mètre de large, c'est des gros carreaux hein, pour les carrefours ou les magasins de voitures. Mais on s'en fabrique. Pour faire un carreau comme ça, on a besoin donc d'un compromis entre kaolinite, enfin une bonne teneur en kaolinite et inite, un bon compromis pour la fusibilité, et puis une teneur importante en smectite, c'est le point rouge. Et avant que les gens n'aient trouvé l'utilisation des argiles d'Ukraine, on se débrouillait comme on pouvait avec les autres gisements existants, en faisant des mélanges, avec plus ou moins de bonheur. Et un jour, ça a été découvert, dans les années 1990, quand l'ex-monde soviétique s'est ouvert. Ce n'était pas initialement du tout utilisé pour le carreau, c'était utilisé pour le réfractaire. Et ça s'est avéré véritablement le produit miraculeux. Il y a une personne qui s'appelle M. Beneventi, qui est le directeur technique d'un des plus grands fabricants de céramique au monde, le groupe Marazzi, qui a dit un jour, jeune ingénieur, j'en rêvais, et un jour mon rêve s'est réalisé, dans les années 95. Ici, vous avez un exemple de stratégie de formulation. On reste dans le cas du carreau, où on doit fabriquer pareillement un produit qui va être blanc, qui doit être blanc et qui doit être aussi relativement solide. Donc, on va y mettre la quantité de feldspath qu'il faut pour que ça fonde. On va faire un équilibre entre les feldspaths sodiques et les feldspaths potassiques. Je ne me suis pas trop étendu sur ces questions-là, mais il y a aussi des choses intéressantes à dire. Du sable et 35% d'argile, où on va essayer de mettre le maximum d'argile locale. Alors, quand on est en Ukraine, tout va bien. Quand on n'est pas en Ukraine, on va... Oui, j'ai oublié de vous dire, en plus, l'argile d'Ukraine, on va dire cerise sur le gâteau, elle est très blanche. Donc, c'est quand on veut faire des produits blancs, c'est très bien. Quand on n'est pas en Ukraine, quand on est en France, quand on est en Italie, on va essayer de mettre le maximum de produits locaux pour ne pas faire trop monter les coûts. Et ce produit local va avoir des limites en termes de couleur et des limites en termes de résistance mécanique. Donc, pour compenser la couleur, on va y mettre un peu de kaolin. Et, bon, le kaolin, c'est vrai qu'il est blanc, pas cuit, mais même après cuisson, le kaolin va apporter de la blancheur, de par le fait qu'il favorise la formation de ces petites aiguilles de mulite qui ont une bonne propriété de réfraction de la lumière. Donc, finalement, il donne de la blancheur aussi à la cuisson. Et on va être obligé, malgré tout, de mettre une argile très, très plastique pour compenser le déficit de plasticité. Donc, vous avez à gauche la formulation en masse. Et quand on applique ensuite les prix des différentes matières premières, cette formulation en valeur, vous vous rendez compte que les produits que vous avez dû ajouter pour faire face aux exigences représentent pratiquement la moitié de la valeur de ce que vous êtes en train de fabriquer. Donc, ce que j'ai racontées jusque maintenant donnent une idée, on va dire, des choses de manière statique. On comprend que les matières premières, on peut avoir des valeurs extrêmement différentes suivant les types de procédés, les applications dans l'espace. Mais les choses changent dans le temps également. Les choses changent dans le temps également, d'abord pour les procédés. Le monde de la céramique est loin d'être un monde statique. C'est un monde qui évolue énormément. Et toujours dans l'exemple du carreau, puisque c'est un bon exemple, on vient de vivre dans les cinq années qui viennent de s'écouler, donc c'est extrêmement récent, deux révolutions technologiques. Deux révolutions technologiques. La première, où on est en train de passer progressivement aux techniques de pressage sans moule. Parce qu'effectivement, quand on doit fabriquer des grands carreaux, on presse avec la presse traditionnelle, et quelquefois, pour démouler, c'est difficile, et démouler, on risque de casser la pièce. Donc il y a des gens, tout simplement, qui ont inventé des méthodes de pressage, un peu comme, à la limite, le rouleau à tarte, vous savez, donc un peu genre laminage. Et donc il n'y a plus de moule, le produit s'étale jusqu'où il doit aller, et ensuite se recouper par jet d'eau, et vous avez exactement les carreaux aux dimensions que vous voulez. Et c'est intéressant là, parce que là, le changement de procédé, pour une fois, enlève des contraintes, au lieu d'en rajouter. Quelquefois, les procédés rajoutent des contraintes. Là, c'est une évolution de procédé qui enlève des contraintes, puisqu'on n'a plus besoin de se fatiguer la tête à trouver des matières premières qui seront plus faciles à démouler. Il n'y a plus besoin de les démouler. Également, très récemment, dans le domaine du carreau, c'est un monde qui est en train de se faire envahir par toutes les techniques d'appression et de décoration par type jet d'encre. Ça a commencé par les couleurs. Historiquement, les couleurs étaient appliquées à la sérigraphie. Ensuite, c'est passé de la sérigraphie au rotocolore, comme dans l'impression des journaux. Et très récemment, ça vient de passer du rotocolore à l'impression jet d'encre, exactement comme dans votre imprimante jet d'encre que vous devez avoir chez vous. C'est les petites machines. Alors, on voit plus, dans ces machines modernes, on ne voit plus rien, c'est capoté. C'est moins joli qu'une, par exemple, la cloche d'émaillage que vous avez en dessous. Donc, même chose dans le domaine de l'émaillage. On applique traditionnellement l'émaillage avec une cloche où on crée une chute, un rideau d'émail à travers lequel passe le carreau et il est émaillé. Aujourd'hui, est en train de se développer les techniques d'émaillage par impression jet d'encre. Et vous comprenez que quand on fait ça, on change tout le problème sur les matières premières. Le plus visible, c'est par rapport à la cloche. Là, on avait des problèmes de rhéologie, il fallait que ce soit fluide, blablabla. Maintenant, il faut que ça passe dans une tête d'impression, il faut que ça ait une certaine granulométrie. Ce n'est plus du tout les mêmes problèmes. Ça a des répercussions importantes sur les matières premières. Et puis, je vous ai cité ici un certain nombre d'évolutions potentielles qu'on peut rencontrer dans l'avenir, dans le monde de la céramique. Je sais qu'il y en a actuellement à l'étude, et peut-être un jour ça peut venir. Je ne vais cependant pas trop m'étendre là-dessus. On parle aujourd'hui d'idées, par exemple, de fabrication additive, impression 3D, même de céramique. C'est un peu un défi, un challenge, mais c'est des choses qui sont à l'étude. Une autre raison qui va faire varier les choses dans le temps, c'est les gisements. Alors, ce qui est important, c'est que d'abord, un gisement, il doit être exploité rationnellement. Un gisement doit être exploité rationnellement. Les produits de grande qualité ne sont pas tout seuls dans un gisement. Les produits de grande qualité, ils sont une fraction du gisement et ils sont environnés par tout un tas d'autres produits qui peuvent être, de toute façon, qu'il faudra bouger pour aller chercher le produit qui nous intéresse. Donc ça nécessite quoi ? Ça nécessite d'abord d'être très sélectif dans l'extraction. Et par exemple, ce qui fait la spécificité un peu des opérateurs, des minéraux industriels, on va dire, d'Europe occidentale par rapport à des gens, par rapport à des exploitations dans les pays en développement. Dans les pays en développement, les gens n'ont pas toujours bien la notion de faire de l'exploitation sélective. Ensuite, l'accès à la ressource des produits importants mobilise bien d'autres produits, et dans une exploitation rationnelle par rapport au développement durable, il est effectivement absolument nécessaire de trouver une application à toutes ces autres matières premières, sinon on gâche des ressources. Bien entendu, il y a un autre challenge aussi qui va nécessairement amener des changements dans le domaine de la céramique, c'est la nécessité de recyclage. Alors ça, c'est des choses qui sont actuellement à l'étude en céramique, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup d'exigences sur les produits et sur les procédés, et aujourd'hui, c'est encore un sacré défi que de trouver des moyens de recycler dans la céramique. Il y a des choses qui sont en train d'être regardées, mais ce n'est pas évident. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la carrière. C'est une carrière de Newbridge dans le Devon, en Angleterre. Le Devon, c'est à côté de la Cornouaille. Et vous y voyez un millefeuille de séquences blanc, gris, noir, blanc, gris, noir, et ainsi de suite. Et la fameuse argile du Devon, très spéciale pour solitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le gris. Donc vous comprenez que si vous exploitez ça n'importe comment, le blanc c'est une argile très collinique, le gris c'est l'argile dont on parlait tout à l'heure, et le noir c'est du lignite. Hein, donc il faut exploiter ça couche par couche, bien les trier, et ensuite faire des mélanges, composer des produits pour qu'ils soient réguliers dans le temps. Et si on fait ça correctement, on arrive à tout exploiter du début jusqu'à la fin, sans rien jeter, c'est une exploitation rationnelle. Ce qui est important aussi, et contrainte aux matières premières, c'est une évidence, mais c'est tellement mieux quand on le redit, un gisement n'est pas éternel. Hein, c'est vrai, nous, dans la vie, tous les jours, on consomme des choses, on jette... Non, un gisement, ce n'est pas éternel. Un gisement, ça s'épuise et ça doit être renouvelé. Alors, on peut le renouveler en faisant de la prospection géologique, en essayant d'aller retrouver un autre gisement, la même argile, avec les mêmes propriétés... Ce n'est pas toujours très évident. On a de temps en temps des bonnes surprises. Hein. On y arrive, mais ce n'est pas toujours très évident. Soit en mettant en œuvre des procédés de raffinage. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se redéveloppe, je dirais, de manière assez importante. Et c'est utilisé de manière assez massive, d'ailleurs, pour les minéraux durs et en particulier pour les feldspathes. Il est assez rare qu'on ait la chance aujourd'hui de taper dans des filons. Les feldspathes peuvent se présenter... comme le disait M. Callas tout à l'heure, soit c'est les grands minéraux blancs que vous avez dans les granites, soit c'est des filons, les gros filons de feldspath qu'on peut aller attaquer sans faire de transformation, c'est rare. Hein, donc on aura toujours besoin de faire de la transformation, de séparer par flottation, par séparation magnétique, pour séparer les feldspaths des micas, et ainsi de suite. C'est des choses, vous avez vu que dans le kaolin, le procédé industriel du kaolin commence par un lavage. Donc à partir du moment où on a commencé par un lavage, on va pouvoir assez facilement mettre en œuvre d'autres technologies, commençant par les plus simples, qui sont les séparations gradiométriques, des séparations magnétiques qui se font, de la délamination, quelquefois on aime que le kaolin soit bien délaminé, et ainsi de suite. C'est techniquement et économiquement beaucoup plus délicat dans le domaine des argiles. Mais ça se développe actuellement. Et là, c'est une photo qui est prise en Thaïlande. C'est un atelier qui appartient à un autre groupe où on essaye, avec des matières premières locales, de recréer le produit miraculeux du Devon à partir de matières premières locales qui existent en Thaïlande, recréer le compromis miraculeux. Et ça, on le fait dans un procédé. Voilà, alors j'arrive à la fin de mon exposé et on a récupéré un certain nombre d'informations, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut être généralisé là-dedans? Et moi je vous propose donc ces quelques phrases que je vous invite à peut-être commenter ensemble. Donc c'est des choses qui sont vraies dans la céramique et pour lesquelles je pense sincèrement que dans tout le monde des minéraux industriels, ça reste... vrai et également. La première phrase, finalement, a été la phrase d'introduction de M. Callas, qui est de dire que le marché des minéraux industriels requiert de grandes quantités. C'est une quantité significative, ce n'est pas des petites quantités, c'est une vraie industrie, et dont les plus gros volumes restent régionaux, locaux. C'est une industrie qui ne se délocalise pas. L'autre point important, c'est que la valeur de la matière première, donc ça varie, on se l'a dit plusieurs fois, dans l'espace, dans le temps, en fonction des usages, des technologies et des ressources minérales disponibles. C'est presque une évidence, mais je trouve que c'est intéressant de s'en rappeler. Ce qui est aussi un point qui, moi, me fait réfléchir de plus en plus actuellement, les technologies sont des gros demandeurs d'exigences. Hein, les technologies, on l'a bien vu. Et quand on voit une technologie comme le coulage sanitaire, c'est une technologie qui est extrêmement exigeante. Et quand on est dans le domaine de, c'est la phrase d'en dessous, quand on est dans le domaine du développement, de l'innovation, de nouvelles technologies, il est extrêmement important de ne pas oublier la matière première et de ne pas oublier d'aller trouver le meilleur compromis entre la technologie qu'on est en train de développer et les matières premières qu'on peut utiliser. Dit autrement, on voit trop souvent des gens qui vont essayer de faire de l'innovation en matière première fixe, comme le monde des matières premières est en général mal connu. On dit, oh là là, énergie, c'est compliqué, je vais prendre ça et je ne bouge plus. Et on va développer un procédé autour de cette argile-là. Alors que si on avait pris juste l'autre argile d'à côté, tout se serait passé mille fois mieux. C'est un exemple. Et ça, je pense que c'est tout à fait généralisable partout dans le monde des minéraux. La digitalisation des procédés, oui, alors je n'ai pas commenté, mais j'avais écrit dans mon slide ce qui se passe actuellement dans le monde des carreaux, les questions de fabrication additive. De toute façon, toute l'industrie actuellement est en train d'évoluer vers fabriquer des petites séries qui sont véritablement, qui correspondent aux besoins de chacun. C'est l'histoire de la voiture qui a son toit d'une couleur, les portes d'une autre, et ainsi de suite. Les gens dans le carreau rêvent à pouvoir sortir deux carreaux qui vont être décorés complètement différemment, l'un derrière l'autre. Et ça, c'est une énorme incitation à faire des progrès technologiques, lesquels progrès technologiques, comme on a vu, vont avoir des applications importantes sur les matières premières. Et enfin, il ne faut pas oublier que, en ce qui concerne les minéraux, dès qu'on a extrait quelque chose, et soit parce qu'on l'a utilisé, ce qui est une bonne chose, ou qu'on l'a mis en décharge, ce qui est une moins bonne chose, en tout cas, ce qu'on a extrait, après, on ne le retrouvera plus. Hein, on essaiera de faire pareil, on va essayer de trouver quelque chose de semblable, mais le répliquer exactement, on n'y arrive pas. Voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention.